Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton pour cet épisode spécial dédié au film Le Successeur, un petit trailer hitchcockien de Xavier Legrand mettant en vedette Marc-André Grondin et Yves Jacques.
Ouais, un film français tourné au Québec, ouais. En fait, une production à majorité française, mais que le trois quarts du film se passe au Québec. En fait, c'est le personnage de Marc-André Grondin et... espèce de nouvelle coqueluche designer de haute couture en France qui vient d'hériter comme de la... d'être le nouveau directeur de la ligne et tout. Mais il apprend que son père est décédé d'une crise cardiaque au Québec. Son père, de qui il n'était pas proche pantoute, on comprend qu'il est parti là, très jeune, à 17-18 ans de la maison, puis qu'il ne se donne pas de nouvelles. Sauf qu'il doit revenir, étant enfant unique, au Québec, puis gérer la succession, puis vendre la maison, puis essayer de... puis les funérailles, puis faire ça le plus rapidement possible. Mais rapidement, il va se trouver en lien avec les amis de son père qui veulent un peu l'aider là-dedans. Puis au fil de ça, il va trouver une espèce de spirale où réaliser que son père y a laissé peut-être plus que juste des liens sanguins.
Et effectivement. Voilà. Donc, sans plus tarder, on laisse...
Je voulais juste dire... On n'a pas pu parler aux deux en même temps. C'est quand même spécial. Souvent, on fait ça. C'est drôle. Il y a eu un imbroglio où Marc-André était coincé dans l'ascenseur de son hôtel. Pour ça qu'il est arrivé en retard. Mais là, avec les horaires, on ne pouvait pas attendre pour faire les deux ensemble. Bref, fait que c'est pour ça que c'est un petit peu plus bref avec Marc-André. Tu sais. Puis j'aime ça parce qu'on a parlé du film. Écoute, on a essayé de faire ça sans spoiler, mais c'est sûr qu'on en parle un petit peu. Fait que si vous êtes intéressé à aller voir le film, je vous dirais d'aller le voir avant d'écouter l'épisode, puis vous allez en prendre plus. Si vous avez besoin de ça pour vous motiver, allez-y. On ne dit pas directement c'est quoi les gros punch, mais tu sais, on tourne un peu autour du pot. Là. Fait que si vous voulez être complètement blanc, allez voir le film, puis revenez à l'épisode. Mais c'est le fun parce qu'on en discute. On discute aussi ces deux acteurs, Yves-Jacques et Marc-André, qui ont des carrières, qui ont eu ou qui ont des carrières en France internationales et tout. Fait qu'on discute de ça un peu avec eux, puis pas juste du film. Parce que comme le souligne Marc-André, tu sais, Xavier Legrand, c'est comme un phénomène. C'est juste que c'est juste son deuxième long métrage, mais son premier a été primé, a été vraiment accueilli chaleureusement par la critique. Mais c'était comme en 2017-2018, parce que c'est aussi un comédien, fait qu'il n'est pas pressé de toujours faire des films. Fait que c'est quand même une grande chance d'avoir un film de cette qualité-là, puis qui vient pas non plus comme au Québec en genre de héros avec son cash puis ces grosses affaires-là. C'est un film qu'on aurait pu produire nous-mêmes, mais que ça marche très bien là-dedans. Bref, on vous encourage vraiment à aller voir Le Successeur, qui est à l'affiche dès le 2 février dans tous les cinémas.
Et bien, sans plus tarder, voici Yves-Jacques et Marc-André Grondin. C'est avec grand bonheur qu'on a l'occasion de recevoir dans le balado le comédien Yves-Jacques pour le film Le Successeur. Bonjour Yves.
Bonjour, merci de votre invitation.
Puis, en fait, j'ai Le Successeur, bravo pour le film.
Ouais. Ah, c'est gentil, merci.
Excellent film. Comment on fait pour jouer dans un excellent film? Comment on choisit un scénario?
Avec beaucoup d'humilité, dans le sens que c'est Xavier Legrand qui m'a texté un jour. Je l'ai connu avant même qu'il fasse Jusqu'à la gare à Paris. On a une amie commune qui était la monteuse des films de Claude Miller.
OK.
Et ils habitaient le même immeuble avec Xavier. Puis elle dit un jour, il faut absolument que j'invite Xavier, que tu le rencontres, un gars adorable et tout ça. Et là, je le vois, on soupe ensemble, puis il me parle de son court-métrage qu'il est en train de faire, qui était la prémisse, en fait, de Jusqu'à la gare.
OK.
Et puis voilà, puis il me vient voir au théâtre. Je jouais à l'époque avec Isabelle Huppert à l'Odéon, à Paris, au théâtre de l'Odéon, dans un Marivaux. Moi, je suis allé le voir aussi... dans le nord de Paris, à Vincennes, voir des pièces qu'il a jouées là-bas. Puis tout ça. Fait qu'on s'est échangé, puis à chaque fois que j'allais à Paris, on finissait par se voir. Tout ça. Et puis là, il y a eu le gros succès de Jusqu'à la garde. Et puis après, c'est ça, je reçois un texto et il m'écrit, je suis en train de travailler sur mon deuxième film et je suis en train de t'écrire un rôle aux petits oignons. Je t'envoie le scénario bientôt. Oh boy! Hey, j'étais pas énervé à peu près parce que j'avais adoré Jusqu'à la garde. Okay. Et effectivement, c'est un rôle aux petits oignons. Et c'est un. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il m'a connu comme étant un bon gars, tu sais, ce que je suis, je pense. Mais on me fait tellement jouer des rôles, des fois, à la limite du. Comme tu sais, dans Jésus de Montréal, je fais c'est le démon. Là, dans C'est comme ça que je t'aime, je joue encore un mafioso. On l'appelle le diable incarné dans la troisième saison de C'est comme ça que je t'aime. Tu sais, on aime ça me faire jouer. Peut-être parce que j'ai des dehors où ça paraît pas. Tu sais, un méchant avec le sourire, c'est toujours plus intéressant. gars qui a l'air d'un méchant. Alors donc, et là, pour une fois, on me fait jouer un gars ordinaire, un gars normal, si je peux dire, un peu banal, qui est simplement le meilleur ami du père, que le fils n'est pas capable de supporter. Il n'a jamais été capable de supporter son père. Et donc, je vais essayer, moi, de le convaincre de se réconcilier à la mort de son père, au moins pour avoir la conscience en paix, tu sais. Alors, j'étais très content, moi, de cette offre-là et son écriture et le fait qu'il nous fasse jouer en québécois dans un film français quand même. Hein? C'est ouais. Une majorité française. Ouais. On ne dit pas ça, majorité française. À majorité francophone de France. Point de vue budget. Et donc, j'étais halluciné. Puis c'est un acteur. Alors, tu sais, c'est un gars qui sait c'est quoi être acteur, qui sait comment nous mettre en situation. Ça a été, tu sais, à part Marc-André, là, qui lui, s'est déchaîné parce qu'il y a vraiment le film sur les épaules, puis il y a des moments horribles à jouer. Moi, c'était plutôt agréable dans le sens que j'étais là pour... tu sais, c'était moi, alors j'avais pas à composer quoi que ce soit. C'était très agréable.
Mais il y a quand même cette twist-là dans le film, sans rien divulgâcher, où... On le sait pas si tu caches quelque chose, si ton personnage est complètement transparent.
En fait, c'est ce que j'ai réalisé en regardant le film avec une salle. Puis j'ai fait, voyons. Et c'est que les gens pensent que je suis complice d'un événement, en fait, dans le film. Et ça, c'est pas du tout. Moi, j'ai pas eu à jouer ça. Au contraire, il fallait surtout pas. Que plus je suis inodore, incolore, sans saveur, j'ai l'impression, plus on peut même mettre des intentions. Mm-hmm. Et je pense que c'est brillant de la part de Xavier Legrand de m'avoir fait jouer ça comme ça. Tu sais.
Et justement, comment il est Xavier comme réalisateur? Est-ce qu'il laisse une part d'improvisation? Il tient beaucoup à ce qui est écrit sur papier? Ou...
Oui, il veut. Oui, mais dans le sens que c'est pas une mordicus, mais il tient ce qu'on commence avec ça, comprends-tu? Ouais. Puis surtout, il sait très bien s'entourer. Son producteur, Alexandre Gavras, le fils de Costa Gavras, le grand réalisateur, sa directrice photo, Nathalie, puis son assistante, Marie, sont avec eux, lui, là, tu sais, et surtout, il s'est associé de... Oui, Dominique Parenteau-Leboeuf, qui a co-scénarisé avec lui, parce que l'erreur qu'il aurait pu faire, c'est d'essayer de l'écrire lui-même en québécois, okay. Ce qui est assez difficile quand tu connais pas la langue. Alors, il a réussi à trouver la perle rare. Et je trouve que c'est écrit... écoute, c'est comme on parle au Québec, mm-hmm. Là, tu sais, c'est vraiment... Et donc, lui... je sais, j'ai une séquence à un moment donné où je devais avoir comme une émotion parce que je reconnais chez le fils, je reconnais le père.
Ouais.
Et c'était écrit, il a un moment d'émotion et à un moment donné, je le faisais deux, trois fois. Puis je me suis échappé, puis j'ai eu comme un rire, ben comme on voit dans le film, en fait, c'est ça qu'il a gardé, okay. Qui était plus naturel chez mon personnage. J'ai dit, ben oui, c'est un bon gars. Il fait, hey, tu ressembles à ton père. Tu sais, c'est comment on fait au Québec, là, tu sais, sans me mettre à broyer à côté de lui. Tu sais, c'est ce qui... Puis moi, étant donné que j'ai perdu ma fille il y a plusieurs années dans le film, c'est un gars qui s'est fait une carapace aussi, tu sais, dans l'émotion. S'il va casser, il faut pas qu'il casse. T'sais. C'est un gars qui se tient, là. Ça prend des gens solides hein, pour passer par-dessus ça, là, tu sais. Ça doit être pire qu'un deuil de perdre un enfant parce que tu dis, si elle est toujours vivante, où est-ce qu'elle est? Tu comprends? Ouais.
On a eu des cas tragiques au Québec.
Ben, c'est ce que je dis, c'est ça. Alors donc, il dirige, il propose, puis il voit où est-ce que ça s'en va. Mais on tenait au texte, tu comprends? Je pense qu'on était fidèles au texte, nous aussi, tu sais. On tenait à ça, oui.
Puis, est-ce que tu avais été...
Je pense toujours qu'il y a quelqu'un qui rentre, en fait.
Non, c'est ça, on est sur l'heure de
ben oui, je comprends. Non, il n'y a pas de problème, excusez-moi.
Est-ce que tu as lu le livre d'où c'est tiré?
Non.
Là, ça sert
moi,
à rien.
J'ai décidé, parce que j'ai déjà fait ça, comprends-tu? Je me souviens pas quelle histoire, quel film. Et je revenais toujours au réalisateur. Oui, mais dans le roman... Veux-tu me laisser tranquille avec ton oui dans le roman? Moi, j'ai écrit un scénario, je me tiens à mon scénario. Tu sais, on apprend en vieillissant. Tu sais.
Je me souviens que Rémi Girard nous avait dit la même chose. Oui. Je pense que c'est une technique qui aide à avoir des belles carrières.
Oui, ben c'est ça. Tu es mieux de tenir tranquille. Tu sais, comme moi, j'avais l'habitude de voir le film comme quand on lit un roman, on s'imagine, on fait nos personnages, on fait nos endroits. Quand on lit un roman, on met en scène. Enfin, moi, je fais ça, là, tu sais. Et donc, je faisais ça quand je lisais un scénario. Puis, souvent, j'arrivais sur le plateau de tournage, j'étais déçu. Je dis, voyons, comment ça fait qu'il tourne ça de même? T'sais. Ben non, c'est pas de même qu'il faut. Puis là, je pouvais devenir tannant, puis j'ai appris à me taire. Parce que j'ai dit, quand tu feras ton film, Yves, vas-y, mais là, c'est pas ton film. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, OK, c'est pas mon film, c'est pas de mes affaires, c'est comme ça qu'il veut le faire. Donc, je suis au service, j'ai appris à être au service, en fait, d'un réalisateur et d'une production, en fait.
Puis, est-ce que c'est ça qui permet un certain détachement si jamais le film tourne mal, ce qui n'est pas le cas ici, mais ouais. Mettons, si c'est déjà arrivé.
Tu veux dire, il tournerait mal après la...
Ouais, mais tourner dans le sens que tu vois le résultat final, tu fais « Ah, oh, c'était pas du tout ce que je pensais. »
Ouais, ben oui, ben c'est là, ça. Tu dis « Ah, ben c'est ça. C'était comme ça qu'il le voyait, puis c'est comme ça. » Au théâtre, c'est la même chose, hein? Okay. Fait que c'est ça, tu sais, à un moment donné, tu fais « OK, là, c'est ça qu'il veut, tu sais. » Mais je veux comprendre aussi, je veux bien comprendre. Est-ce que le survivant est arrivé? Est-ce que le survivant est là, non?
Non.
Alors, je tiens justement à être solidaire quand même là, quand je fais un film, puis tout ça, à moins de vraiment pas m'entendre avec la personne, mais c'est très rare que ça m'est arrivé.
Okay.
Heureusement, ouais.
Et comment s'est passée cette rencontre avec Marc-André Grondin?
Oh, écoute, il est tellement facile, Marc-André. Là, c'est comme mon petit frère. Là, c'est... Puis on a joué de la batterie, nous, tous les deux. On est deux batteurs, en fait. Et lui, il était malade de batterie. Je pense qu'il est plus malade de l'instrument que de jouer. Mais probablement qu'il joue très bien. Je ne l'ai pas entendu, mais j'en suis sûr. Et moi, j'ai joué beaucoup. J'ai fait même le Conservatoire de musique de Québec. Okay.
Ouais, pas
très longtemps. Je l'ai fait un semestre. Ça veut dire quoi, presque? Que 6 mois. Et il voulait me garder, mais bon, il fallait que je finisse mes études. Puis j'ai réalisé que j'aimais mieux être devant le drum que derrière, en fait.
Ben, c'est mieux de s'en rendre compte avant de virer le bend à l'envers.
Mais je l'ai toujours. D'ailleurs, là, je prépare un spectacle avec Mathieu Quesnel à Espace Libre, puis je joue de la batterie dans le spectacle. Ouais.
Puis vous partagez une scène très émouvante, toi et Marc-André, dans le film.
Ouais.
Est-ce que vous avez préparé ça en amont et de la répète un peu ou c'était on y va,
moi,
puis
j'avais,
on plonge?
Avant, j'avais cette scène où je m'échappe tout à coup et je parle de ma fille. Et j'ai un moment d'émotion que je retiens. Mais à la première prise que j'ai faite, Xavier m'a laissé vivre ça, tu sais. Puis j'ai éclaté, là, puis j'ai pleuré autant que Marc-André plus tard. Sauf que je pouvais pas, moi, m'écrouler. Parce que si un gars comme ça qui s'est tenu debout, c'est pas normal. S'il s'écroule pour la mort de son ami, pour la mort de sa fille, qu'est-ce que c'est, bon? Ou la mort de sa fille, la disparition de sa fille. Fait que Yves, il dit, j'aime ça. Il dit, laisse-toi, tu t'échappes, mais tu te reprends tout de suite. C'est ce que je fais dans le film. Pour laisser, évidemment, aussi la place à Marc-André, à Elias, je devrais dire, le nom du personnage. Donc, et ça s'est fait presque en une prise. Hein, la prise où on pleure ensemble. Et très curieusement, en voyant le film il n'y a pas longtemps, je me suis rappelé que dans le déclin de l'Empire américain, je vivais la même chose avec Dorothée Berryman, qui vient pleurer dans mes bras quand elle apprend que son mari l'a triché. C'est drôle, hein?
Reconnu pour être une épaule.
Oui, une épaule.
C'est ça. Puis, est-ce-tu le genre de film qu'on tourne dans l'ordre pour l'évolution des personnages? Ou
Moi, j'ai tourné dans l'ordre, peu près dans l'ordre, ouais. Ouais. Et je pense que pour Marc-André aussi, toute la séquence du sous-sol et tout ça, là, je pense que c'est assez... Il va vous le confirmer ou non, là, mais Xavier a essayé. Puis, tu sais, c'était un lieu unique. Hein? On avait des petits moments de voiture. Après ça, le salon funéraire. Donc ça, c'était pas chronologique.
Okay.
Mais ce qui était dans la maison, je pense qu'on l'a fait chronologiquement.
Puis, j'avais une question. Puis je suis en train de... Ah oui, puis moi, j'aimerais revenir sur la séquence finale avec votre personnage, qui est quand même un peu ouvert, un peu ambigu. J'ai trouvé cette proposition-là intéressante. Puis...
Ben encore une fois, vas-y.
C'est ça, on avait eu l'occasion de discuter avant pour un entretien, puis vous m'aviez révélé que dans le fond, qu'il y avait tourné aussi quand même quelque chose d'un peu plus conventionnel, puis que ça a été finalement changé au montage.
En fait, c'est que... Il voulait voir un peu comment j'allais réagir, parce que moi je voulais pas voir le sous-sol. J'ai refusé de voir le sous-sol de tout le tournage.
Okay.
J'ai dit, parce que je veux me garder surprise de le découvrir au moment où ça va arriver. Puis c'était le fun, parce que je savais même pas où était la caméra. Je savais pas du tout de la façon qu'il avait placé ça. Et je rentre dans le sous-sol, puis là, je prends le tunnel, puis là, je découvre cette affaire-là. Et je l'ai vécu. J'attendais qu'il fasse cut, il faisait pas cut, ça fait que je l'ai vécu. me suis imaginé qu'il y avait des teddy bears, des poupées, puis tu dis, ben c'est moi qui avais donné ça. C'est... Puis là, tu fais, oh fuck, mais c'est l'endroit où ma fille. Et là, j'éclate. Donc, j'ai fait une scène où j'éclate. Je me suis amusé dans l'éclatage de sanglots. Pour rien. Mais en même temps, c'était pas ça qu'il voulait, lui. Et c'est un homme très discret, hein, Xavier. Il aime mieux voir. Il aime mieux pas voir, en fait. Il aime mieux qu'on s'imagine. Et ce qu'il voulait, en fait, c'est ça, c'est que je suis dans le cadre de porte, puis. La respiration commence à changer. Et là, je traverse l'autre côté et on laisse ça à l'imagination des gens. Je trouve ça très beau.
Oui, vraiment.
Puis, je voulais peut-être sortir un peu du film. Vous aviez parlé en début d'entrevue. Est-ce que ça a été ardu de démarrer une carrière en France en plus de conserver sa carrière au Québec? En théâtre et en cinéma.
Quand je suis parti là-bas, il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait pas d'ordi encore, je pense. Il y avait le fax qui venait d'arriver, mais on ne pouvait pas avoir un ordi chacun chez soi. Là, tu sais, il y avait des ordinateurs, bien sûr. Alors, il y avait le Minitel, mais ça ne me servait pas. Ah, le Minitel, c'était une espèce de petite télé de recherche à Paris.
Okay.
Ah, ouais. À Paris, en France, en fait, 3615 Minitel, je ne sais pas quoi. Là. Okay. C'était un truc... Oui, c'est l'ancêtre de l'ordi, en fait. Et donc, c'est ça. Quand je suis arrivé là-bas, en fait, je suis arrivé avec... je venais de faire La Légende de Jimmy ici, de Luc Plamondon et Michel Berger. Et je connaissais... j'avais travaillé avec Jérôme Savary qui avait le Théâtre national de Chaillot à Paris. J'arrivais pas les mains vides. J'avais fait Le déclin de l'Empire américain et Jésus de Montréal. Et j'avais fait quelques allers-retours aussi avant pour m'assurer que c'était possible. Bon, puis j'avais un ami qui m'avait prêté son appartement. Et c'est pour ça que je dis que je suis arrivé en 94, parce que ça a vraiment débuté en 94. Et donc, je vois ce metteur en scène-là qui finit par me faire jouer dans son théâtre. Donc, la première fois que j'ai joué à Paris, c'était avec Rupert Everett. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Qui avait joué dans... Vous êtes jeune, vous.
On a une différence, puis ça aide sur des références.
Rupert Everett, il a fait un merveilleux film sur Oscar Wilde dernièrement. Et il avait joué dans My Best Friend's Wedding, qui faisait l'ami de Julia Roberts. L'ami gay, je pense. Fait que ça ma première expérience. Et il y a une vieille casting française, Margot Capelier, qui m'appréciait beaucoup. Et Margot Capelier, à 20 ans, elle était script sur Les Enfants du Paradis de Marcel Carné. Et sur son vieil âge, elle était devenue casting director, là, si je peux dire. Et elle disait, Yviac, vous, c'est sur scène. Il faut vous voir sur scène, sinon on ne comprend pas tout votre talent. C'est vraiment là où on voit votre talent. Et très curieusement, c'est comme ça qu'on m'a fait jouer au cinéma. Claude Miller est venu voir cette pièce-là. Okay. C'était L'importance d'être constant d'Oscar Wilde. Il a pris mon nom, il y a un petit calepin, Claude, puis il mettait tout ce qu'il voyait, tout ça. Il met mon nom, puis on se rencontre pour un rôle, puis j'ai fait sept films avec lui. La même chose avec Denis Arcand. Des fois, j'oublie ça, c'est que Denis avait écrit pour une pièce ici au Théâtre du Trident. C'était un collectif de plusieurs auteurs. Il y avait Claude Meunier, Louis Saillat, Denis Arcand, Bouchard aussi, qui avait fait la mise en scène. Voyons, comment est-ce qu'il s'appelle son prénom? Non, plus vieux que ça, okay. Qui a été directeur du Conservatoire à Québec. Il y a le Grand Cirque Ordinaire,
Peu importe.
Et donc, et en sortant de là, ben, Denis nous découvre, Rémi Girard et moi, puis on a joué dans Le Crime de Vidplouf, puis après ça, le déclin de l'Empire américain, puis j'ai fait sept films avec Denis. Tu sais, c'est fou. C'est la même chose quand j'ai joué avec au théâtre de l'Odéon avec Isabelle Huppert. Ben, évidemment, lui, c'était un homme de théâtre. Et il m'a fait jouer après ça à l'Odéon. Il m'avait vu jouer dans une pièce de Robert Lepage, le projet Andersen. Et j'ai rencontré Michael Haneke comme ça aussi, à Vienne, où il habite. Sa femme, elle, m'avait vu dans le projet Andersen. Elle dit, quel dommage que Michael ne soit pas là ce soir. Il est à Cannes avec le ruban blanc, mais il adorerait vous voir. Et puis, je me retrouve à Vienne 2 ans plus tard pour jouer La face cachée de la lune. Et je suis assis sur une terrasse. Je continue à vous raconter l'anecdote, ça vous rappelle? Et je vois Michael Haneke qui marche vers moi puis qui rentre dans un immeuble en face du café Alors, je vais voir les gens du café. Il dit, oui, oui, c'est M. Haneke qui habite en face. Oh, ben maudit. Alors, vu que j'avais rencontré sa femme, je rentre dans l'immeuble, j'écris un petit bout de papier. Je dis, bonjour, je suis Yves-Jacques, j'écris à sa femme. Vous m'avez vu jouer il y a 2 ans dans telle pièce. Je joue en ce moment à tel théâtre. Je serais heureux de pouvoir vous inviter. Et je rentre dans l'immeuble. Je dis, mon Dieu, si je le croise, qu'est-ce que j'étais comme ça, tu sais. Et là, je cherche la boîte aux lettres Haneke, il n'y en a pas. Mais il y a une boîte électrique. Fait que je plie mon petit papier pour faire un petit triangle pour que ça tienne sur le. Puis je la mets sur la boîte électrique. Une demi-heure plus tard, je reçois un coup de fil, c'est Mme Haneke, puis j'avais laissé mon numéro de cellulaire. Yves, nous allons vous voir dimanche en après-midi. Nous vous attendons au café du théâtre après pour prendre un verre avec vous. Ah ben, beau tassier! Alors, on a parlé 1 heure après la pièce. Il avait adoré la pièce. Puis on a parlé de son cinéma. Puis il m'a demandé lequel des deux films... tu sais, c'est les deux gars qui cherchent une balle de golf. Là, comment ça s'appelle, donc? Il y a une version allemande, puis il y a une version américaine.
Vous n'avez pas vu, il faut voir ça.
C'est deux petits gars, puis ils vont massacrer la famille.
Okay.
Ils kidnappent la famille, puis on ne sait pas trop pourquoi ils kidnappent la famille.
Funny Games. Oui, OK, je n'ai jamais vu, mais
j'ai entendu parler. Il faut voir ça. Donc, il y a une version allemande.
Ouais.
Moi, j'ai
dit, c'est Haneke qui l'a fait.
Oui, puis il a refait aux États-Unis. Okay. L'identique.
Avec Tim Roth.
Oui, tout ça. Comment s'appelle la merveilleuse l'actrice? Mais à la séquence près, c'est la même chose. Et lequel vous avez aimé le plus? Ben, je dis pas, j'ai préféré la version allemande parce que les deux gars étaient plus... Puis tu sais, quand tu connais moins les acteurs, tu y crois plus.
Oui, effectivement, oui.
Fait qu'on s'est laissé là-dessus. Bon, après ça, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie.
Quand même.
Mais c'est un bonheur de l'avoir rencontré.
Y a-tu refait des films depuis?
Oui, il a fait quelque chose, mais vraiment, là, je dis, ah ben, il n'y avait rien pour moi là-dedans. Là,
OK, c'est ça.
Non, juste pas.
Et c'est quoi la principale différence que vous voyez en tournée dans un film français et tournée au Québec? À part, j'imagine, les moyens.
C'est le lunch, c'est le dîner.
Oui, c'est ça. Le choix est plus
vaste. Ben, c'est parce que les techniciens français, ils ne tournent pas s'il n'y a pas de l'alcool au lunch. Ouais. Ben oui. Et puis, c'est au dessert, il y a du fromage, il y a des desserts. Quand c'est une bonne production, tu as fromage et dessert.
Okay.
Et quand ils n'ont pas d'argent, c'est fromage ou dessert. Okay. Je me souviens d'entendre les gars qui disaient, ouais, ici, c'est fromage ou dessert. Hein, c'est pas...
Ça quantifie. Il était pas content
de la prod, les gars. Tu sais, c'était drôle.
Mais là, avec fromage, dessert, puis alcool, l'après-midi doit être un peu moins lourd.
Moi, je touche pas à ça parce que je veux être bon dans mes séquences. Mais les gars, les techniciens, là, tu sais... puis t'arrives, tu commences à tourner tard. J'ai tourné avec Fabrice Lucchini. Lui, il commence à tourner... il arrive sur le plateau à midi, à peu près, là, tu sais. Okay. Fait que on va au maquillage coiffure vers 10 heures, puis à midi, on commence à tourner, tu sais.
Okay.
Mais c'est souvent comme ça en France. Alors qu'ici, ben on fait très tôt le matin... puis on s'en va jusqu'à 7-8 heures le soir.
Mais là-bas, la journée finit plus tard ou ils font juste une plus courte journée?
Ils font une plus courte journée.
Okay.
Ouais. C'est beaucoup plus agréable, en fait. C'est moins... On est moins au cinéma, en tout cas. On est moins dans le poussif qu'on est ici, là, tu sais.
Ouais, ici, si t'as 21 jours de tournage, ils vont être costauds.
Il y a plus d'argent consacré aussi au film, tu sais. Qu'ici, là, tu sais, c'est quand même, faut le dire, là, tu sais. Puis au théâtre aussi, là, tu sais, les théâtres nationaux, ils ont de l'argent. Ça n'a pas de bon sens, là, tu sais.
Ouais. Mais ça va, j'imagine, avec le bassin de...
aussi, bien sûr.
De spectateurs potentiels.
Ouais,
et tout.
Ouais.
C'est un peu l'enjeu.
Puis quand tu sais que chaque billet que tu achètes quand tu vas au cinéma en France, retourne au cinéma français. Même si tu vas voir Titanic ou tu vas voir un film américain, ils ont réussi à négocier
ça,
les Français. Il y a une partie du prix que tu as payé pour ton billet, même pour un film américain, qui retourne au cinéma français. On a essayé de faire ça ici avec Denise Robert, Madame Baudouin, qui était au PQ à l'époque, les majors n'ont rien voulu savoir.
Ah, ben
il faudrait à la limite que tout le Canada embarque d'une certaine façon.
C'est pour ça que tu as toujours ce fameux prix hommage au César à une vedette américaine. C'est aussi, ça fait partie du deal.
Ça va être Christopher Nolan cette année, je comprends pourquoi. Ouais.
Okay. OK, intéressant. Ben, merci pour cette belle conversation. Voilà. Et on souhaite aux gens de découvrir absolument le successeur. Bon petit thriller Hitchcockien.
Merci, messieurs.
Merci.
On accueille maintenant Marc-André Grondin pour le film Le Successeur. Bonjour Marc-André.
Bonsoir.
Grosse aventure d'ascenseur, faut dire.
Tout droit sorti de l'ascenseur.
C'est ça, c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à voir Yves et Marc-André en même temps.
C'est ça. Écoute, pour continuer, je ne suis pas claustrophobe, ça s'est super bien passé. mais c'est quand même un scénario qui peut être vraiment anxiogène, comme le film.
Oui,
oui, vraiment. Tout à fait. On a posé un peu la question d'entrée de jeu à Yves. Comment on fait pour se retrouver dans un bon film comme ça, d'un réalisateur français tourné au Québec, coproduction? Est-ce que sais-tu si Xavier avait toi en tête comme rôle principal ou t'as auditionné pour ça?
J'ai pas auditionné. Non, ben en fait, c'est beaucoup de chance. La réponse, c'est vraiment beaucoup de chance. Parce que moi, j'ai tourné une série avec Denis Ménochet qui s'appelle Spotless.
Je puis... savais qu'il y avait un lien avec ça. Puis je sens que je suis un des seuls qui a écouté cette série-là. Je suis déçu qu'il n'y ait jamais eu de deuxième saison.
Ouais,
à un moment donné, j'étais
sûr. Ça a été vraiment un capharnaüm de production, tout ça. Puis ça a fait en sorte que quand il était prêt à tourner la saison 2, c'était genre 6 ans après. Là. Fait qu'il était trop tard. Là. Fait que... Mais c'est ça. Puis moi, j'étais, je me suis lié d'amitié avec Denis. On tournait 6 jours semaine pendant 6 mois ensemble. On était vraiment proches. Donc par la suite, j'ai vu Jusqu'à la garde parce que je connaissais Denis encore plus. Puis j'ai été vraiment sur le cul quand j'ai vu ce film-là. Denis, il fait une des plus belles prestations que j'ai vues au cinéma. Il est incroyable.
Quelqu'un qui voit juste ce film-là va avoir des réticences envers Denis Ménochet.
100%.
Tu vas penser qu'il est 100%. Même.
Puis tu sais, Denis, c'est un être complexe, mais c'est une pièce d'homme aussi. Là. Il est vraiment massif. Mais tu sais, moi, Denis, on se fait des câlins, puis il est chatouilleux. Là, mais il m'a vraiment, vraiment fait peur là-dedans. Là, donc, je le savais que c'était un bon directeur d'acteur, Xavier Legrand. Je l'avais sous mon radar. Puis Denis, il a parlé de moi. Et on a le même agent. Puis un moment donné, j'étais de passage à Paris. Je m'en allais à un mariage. Écoute bien. Puis pour la petite histoire. Puis, puis mon agente a fait, ben Xavier, puis il aimerait ça te rencontrer, prendre un café avec toi. T'sais. Fait qu'on s'est rencontrés comme ça. On a jasé un peu. Pris une petite heure, un café. Puis il m'a raconté qu'il y avait un projet de film éventuellement, probablement avec un Québécois qui travaille en France puis qui n'est pas retourné au Québec depuis longtemps puis qu'éventuellement, ben, il doit retourner, s'occuper de la succession de son père. Son père décède, son père de qui il n'était pas proche, tout ça. Je fais « OK, on connaît ça, nous autres, les relations père-fils au cinéma québécois, fait que, c'est bon. » Puis pas une nouvelle après pendant des années, mais c'était pas une offre. Là. C'était juste, il m'en a juste parlé comme ça. J'ai pas pris pour acquis que ça allait être moi non plus. Mm-hmm. Puis éventuellement, j'ai reçu un courriel avec le scénario. Puis Xavier t'offre de jouer dans son film si ça t'intéresse. Puis j'ai commencé à lire ça. Puis j'ai fait bon, ben écoute, le deuil. Bon, je sais pas, il va peut-être comprendre des choses sur son père. Puis à un moment donné, je tourne une page. J'ai fait oh shit, c'est pas. Pendant tout le film que je pensais que ça allait être.
Comme spectateur, ça fait cet effet-là. Ouais, c'est ça. Ouais, tout ouais.
De là, l'importance de toujours essayer de rien dire, mais en même temps, préparer le monde à quand même...
Ben, on se doute aussi avec la bande-annonce que c'est un film à punch. T'sais, il va se passer quelque chose. Là.
Mais... on se doute pas de la noirceur
non,
du
exactement.
Film.
Non, exactement. Non.
Puis est-ce que c'est dur pour toi, pendant le tournage, de garder ce niveau d'intensité-là, d'anxiété, parce que c'est quand même un rôle assez physique aussi quand même, là? Où on est dans la joie, puis action, puis on y va, on plonge.
Ben, un peu des deux, ouais. Ouais. Moi, je suis très comme ça, là. Très,
pas trop méthode acting.
Non, je fais des jokes, puis tout. Puis action, j'embarque dans le truc. Peut-être une façon aussi de se protéger, puis de ben, premièrement, il faut bien avoir du fun, parce que sinon, on serait vraiment en poche là, d'être tout le temps pris d'anxiété pendant le tournage. Mais aussi, je pense, pour me rappeler, puis pour rappeler au monde que je me prends pas au sérieux là-dedans, parce que c'est quand même intense, ces scènes-là. C'est gros, c'est énorme. Fait que, t'sais, mais il y a eu quand même deux scènes où après, t'sais, on a fait peut-être deux prises de ces scènes-là, là, puis j'avais un petit shake nerveux. Tu sais, comme quand, je sais pas, là, ça m'est déjà arrivé quand j'étais petit, j'ai eu un petit accident de voiture, là, un petit accrochage, mais qui a comme secoué, puis après, j'avais un petit shake nerveux. Mais j'ai eu ça, c'est la première fois que j'avais ça. Puis c'est sûr qu'il y a une scène plus vers la fin du film là, où ça a été très très long, fait que tu te préserves un peu entre les prises. Mais en règle générale, par contre, je rentrais chez nous le soir, puis tu sais, je soupais en. On tournait de nuit beaucoup, là, fait que tu sais, je mangeais quand même avant de me coucher, il était peut-être 4h30 du matin. Puis je regardais un peu des true crime. Là. Je restais quand même un peu dans un truc un peu glauque. Là,
ouais, puis c'était comme à l'hiver, fait que ça devait prendre du temps avec le soleil se lève.
Exactement, juste, c'est ouais. Ça. Mais en même temps, tu sais, il fallait quand même que. Je ne peux pas m'attarder là-dessus parce que 4h, 5h après, les enfants se réveillaient, puis la vie continue.
Puis toi, comment ça a été de je jump un peu d'un truc à l'autre, mais de jongler, on a parlé avec qui, avec ta carrière française, qu'à un moment donné, t'as vu une opportunité, t'as pris un leap, c'était quoi, en 2005 à peu près, 2007?
Ben écoute, moi, après Crazy, j'ai fait de la tournée de promo pour le film, puis il y avait des sorties dans d'autres territoires, des festivals, tout comme ça, puis j'étais... Il y a un très, très gros agent en France, à Paris, qui m'a contacté parce qu'il voulait me représenter. Puis j'étais comme, bon, c'est un agent, pas grave. Là, puis je m'en allais à Madrid faire la sortie de Crazy en Espagne. Puis lui, il s'en allait voir Stéphane Rousseau, qui tournait Astérix, dans un studio en Espagne. Fait qu'on s'est rencontrés à mon hôtel, on a jasé. Puis il m'avait dit, il y a des rôles pour toi. Puis j'ai dit, comment ça, il y a des rôles pour moi? Vous êtes tellement beaucoup, vous autres. Il doit avoir des acteurs. Mais il dit, non, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'acteurs de ton âge. Puis c'est vrai qu'à l'époque, les acteurs de mon âge qu'on voit maintenant, qui sont des énormes vedettes, ben ils sortaient de l'école.
Mais il y a Pio Marmaille dans...
Ben il y a Pio, oui. Mais tu sais, François Civil, tout ça, tous ces gros noms-là, ils commençaient ou ils étaient encore dans les écoles, ou en tout cas, ils ne faisaient pas des lignes encore, tu sais. Ouais. Fait que il y avait pas mal Gaspard Ulliel, puis c'est tout, tu sais, là. Donc, moi, je suis comme arrivé là-bas parce que j'avais rien ici, j'avais rien au Québec, on m'offrait rien, il y avait pas de projet. Puis là-bas, on m'a offert un film, puis pendant que je tournais ce film-là, on m'a offert un autre film, puis ça a été comme ça pendant un bout. Puis ça a été... j'ai beaucoup, beaucoup pris de projets que Gaspard refusait, pour vrai. Okay. Oh, ouais. Où il pouvait plus faire parce qu'il embarquait sur un autre truc. Fait que j'ai fait ça pendant un bout de temps. Mais moi, j'ai jamais voulu avoir une carrière là-bas. Là. Ça m'a donné de même. Okay. J'étais bien chanceux.
C'est pour ça qu'à un moment donné, c'était plus conciliable d'avoir les deux en même temps. Quand tu t'es mis à avoir des téléséries et des choses
ben,
au Québec.
Ça a donné que... Tu sais, je suis revenu de faire Spotless puis j'ai eu ma fille. Puis j'ai eu des opportunités d'aller tourner juste après, mais tu sais, j'avais un bébé de 2 mois, ça me tentait pas de partir pendant 3-4 mois à l'étranger. Fait que j'ai toujours été assez sélectif dans ce que je voulais faire, mais là, depuis que j'ai des enfants, je le suis encore plus. Ça prend vraiment un énorme coup de cœur puis un bon timing pour que je parte. Tu sais, même juste sur le successeur, je suis parti 2 semaines c'est pour vrai. Le tournage, puis je trouvais ça long 2 semaines. Mmh. Fait que,
ben, c'est quand même un film français tourné aux 3/4 au Québec.
Mais ça, il faut quand même le mentionner parce que, tu sais, Xavier Legrand, c'est pas n'importe qui. C'est son 2e long métrage. Le premier était primé. Son court métrage avant est allé aux Oscars. Tu sais, genre, le gars, là, peut faire ce qu'il veut, puis il décide de faire un film qui se passe à 80% en québécois.
Ouais. Tourné en québécois aussi.
Ouais, puis pas dans les grandes montagnes du Québec, puis les beaux lacs et tout ça, là. Non, dans banlieue,
dans
normal,
un bungalow.
Dans un bungalow.
À Repentigny.
À Repentigny. Ouais, ouais, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Je trouve ça vraiment trippant qu'ils soient intéressés à nous, puis qu'on ait cette place-là dans le cinéma.
Bien, merci beaucoup pour cette belle conversation, Marc-André.
Merci à vous autres.